au micro, c'est Malia Konkou.
On écoutait tantôt « Don't touch my hair » de Solange. Petit indice pour le segment qui commence, c'est surtout pour la prochaine invitée. J'ai bien sûr nommé Marilyn Chéry, comédienne, dramaturge, finaliste également dans la catégorie comédienne théâtre de la 8e édition du Gala Dynastie. Une main d'applaudissements s'il vous plaît mesdames, merci beaucoup. Et surtout autrice et interprète de la pièce Aphrodisiaque. Donc elle y incarne un rhizome, donc tu me diras si je me trompe un peu, mais c'est une sorte de réseau souterrain de racines sous un organisme. Mais là, elle incarne un rhizome de cheveux d'une petite fille noire qui a du mal à apprécier sa chevelure. Marilyn, bonjour.
Bonjour.
On s'était déjà parlé en 2021, quand j'écrivais justement un article sur ton spectacle Aphrodisiaque. Et moi, ça m'avait déjà interpellée parce que tout ce qui est cheveux, je pourrais en parler des heures, Palina est témoin. Et je me souviens que tu avais décrit cette pièce comme étant une lettre d'amour aux cheveux afro.
Oui.
Explique-nous un peu ce qu'est cette lettre d'amour.
Ah là là, cette lettre d'amour, c'est un spectacle qui a été en développement pendant beaucoup, plusieurs années. À partir de ma dernière année en études théâtrales à Concordia. Puis j'ai testé tellement de choses avec ce texte jusqu'à ce que ça devienne, ben c'est ça, le rhizome de la négritude, en fait. Donc c'est vraiment le rhizome de la négritude, le rhizome de l'histoire noire. C'est la racine noire qui part vraiment du continent africain à chacune de nos nuques, chacune de nos racines dans notre corps. Donc ce qui est dans notre ADN et qui contient toute l'histoire, toute notre histoire qui part à partir de la racine du cheveu en nous faisant grandir. Tu sais. Et ça me tentait d'écrire quelque chose là-dessus parce que ça faisait plusieurs années que je voyais le mouvement des cheveux naturels revenir au galop ici, en Amérique du Nord. Il y avait eu beaucoup de mouvements sur le continent africain et en Europe aussi. Puis moi, en tant que comédienne aussi, pendant mes études, je me demandais mais comment ça se manifeste justement chez les acteurs, chez les comédiens, chez les interprètes. Parce que ici, là, on va parler plus Québec, je voyais beaucoup de comédiennes avec beaucoup de perruques, beaucoup de tissages, mais jamais avec leurs cheveux naturels. Et moi, j'étais toujours la seule. Donc, je me posais des questions. Donc, est-ce que ça va être une barrière? Est-ce que ça va être un problème? Qu'est-ce que ça va encourir pour moi en tant qu'interprète? Et donc, je me suis dit, on va écrire Aphrodisiaque. On va voir si le cheveu, on lui donne la parole pour une fois. Parce qu'il y a toutes sortes d'œuvres, tu sais, qui existent, de Kink in My Hair. Il y a toutes sortes de pièces d'œuvres qui existent à propos du cheveu afro. Mais si on laissait pour une fois le cheveu parler, qu'est-ce que lui aurait à dire sur la manière dont on le manie, sur la manière dont on le brûle, sur la manière dont on suppress. Ah mon Dieu, j'ai trois langues dans la tête.
On l'étouffe. Oui, c'est ça, on l'étouffe.
Qu'est-ce que le cheveu a à dire là-dessus si on lui demandait son avis?
Qu'est-ce qu'il a à dire là-dessus?
Ah, ben, as-tu vu le spectacle? En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est ça. Si on donnait la parole aux cheveux crépus, aux cheveux afro pour une fois, qu'est-ce qu'il nous dirait? Mm-hmm. Puis j'avais le goût de me lancer dans cette folle aventure. Et si le cheveu afro parlait à une petite fille à la croisée des chemins, qui, elle, a le choix d'ou bien l'aimer ou de décider de se contraindre au canon de beauté caucasien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on a cette conversation-là, plutôt que de sentir la pression de l'autre? Donc, je me suis lancée là-dedans. Je me suis dit, c'est simple, on y va. Ça a pris des années. Mais c'était le fun, c'était le fun.
Est-ce que c'est une aventure qui est terminée?
Elle n'est pas terminée parce qu'Aphrodisiaque est en train de prendre plusieurs formes différentes. Aphrodisiaque, c'est ça, on en parlait un petit peu rapidement avant. Ben là, le livre, il va sortir, ça va être publié, donc on va donner justement accès à plus de petites filles, à plus de personnes, à plus d'adultes aussi, de pouvoir lire la chose s'ils le veulent. Il y a aussi le désir de la traduction en anglais pour, encore une fois, le faire voyager, le faire... aller ailleurs. Puis il y a aussi, c'est ça, l'album d'Aphrodisiaque qui va sortir, donc avec toute la musique originale du spectacle, parce que c'est ça, toute la musique du spectacle, elle est magnifique. Puis on voulait justement donner cette espèce d'effet sensoriel aux gens, comme pendant la lecture pour qu'ils puissent vraiment s'immerger. Je sais parler, je suis dramaturge. S'immerger dans le texte et dans l'histoire. Donc, ça va prendre cette forme-là aussi. Et bon, peut-être, je dis ça, je dis rien, peut-être il y a une forme audiovisuelle aussi.
Oh!
Mais je dis ça comme ça, je vais juste dire ça comme ça. Peut-être Cyril va me rappeler, je sais pas, je dis ça comme ça. Donc, voilà. Mais, donc, je cherche vraiment, comme le rhizome, en fait, à faire poursuivre cette œuvre-là de toutes sortes de manières, puis à lui donner plusieurs vies.
Mm-hmm.
Parce que, aussi, au niveau théâtral, souvent, on fait une œuvre et c'est fini. Puis je me dis, mais pourquoi on ne continue pas la vie de ces œuvres-là? Puis aussi parce que je reçois tout le temps des messages de gens. Mais quand est-ce que ça revient? Quand est-ce que ça revient? Quand est-ce que ça revient? La réponse, c'est ça va revenir. Quand, je ne te le dis pas, mais ça va revenir. Donc, voilà la réponse.
Et sous différentes formes.
Sous différentes formes.
C'est ça. Est-ce que, selon toi, et là, c'est vraiment c'est une question qui fait partie de débats avec mes amis, avec, en tout cas... Je ne vais pas demander de trancher, mais plutôt d'avoir... Ça m'intéresserait d'avoir ton avis sur ça.
Ouais.
Est-ce qu'on est notre cheveu? Est-ce qu'il fait toute notre identité?
Ça, après... Bon, moi, je...
Selon toi.
Ouais, selon moi. Mais tu vois, déjà, Aphrodisiaque, j'ai écrit d'une manière que je ne voulais pas... tu sais, on parle du cheveu, la femme noire, brune, métissée, hein, mm-hmm. dans le spectacle. Moi, je ne voulais pas donner une raison... qui a raison, qui a tort. C'est pas ça, le spectacle, de toute façon. C'était vraiment de donner toutes les clés, de montrer le cheminement du cheveu, le cheminement de comment on s'est oublié, comment on a oublié nos racines, et c'est quoi se réapproprier la racine, reprendre contact, reprendre cette conversation avec nous-mêmes. Donc déjà là, moi, c'est assez, pour moi, avec le spectacle. Je voulais pas dire, si tu portes une perruque, si tu portes un tissage... que tu as tort. Ça, ce n'est pas ma place de faire ça.
Mm-hmm.
Mais je trouve que c'est important d'avoir cette espèce de conversation, cette espèce d'espace pour se ressourcer et aller voir d'où nous venons, juste pour comprendre, tu sais. Parce que autant qu'on pourrait se dire que c'est compliqué de prendre soin de nos cheveux d'une certaine manière, mais on a aussi été contraints et appris à ne pas en prendre soin. Donc, si on le réapprend, c'est comme apprendre à lire, à écrire, à marcher, peu importe. T'sais. Si on apprend... C'est pas si difficile que ça, mais si nous, on nous gave d'idées que c'est compliqué, que c'est malpropre, que c'est non professionnel, que c'est ci, que c'est ça, c'est sûr qu'on n'a pas vraiment envie de faire l'effort. Puis je pense que ça, c'est des questions qui reviennent à chaque génération.
Mm-hmm.
À chaque génération, parce qu'on dirait qu'on est toujours prêt, on arrive vraiment proche d'une sorte d'acceptation ou de « hey, on recommence à zéro, puis on... » On embrasse nos cheveux, mais on dirait qu'à chaque génération, ça revient. C'est cyclique, ça revient à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Donc,
Qu'est-ce qui fait obstacle? Qu'est-ce qui crée ce cycle?
Je pense que c'est le système.
Mm.
C'est le système dans lequel on est qui fait obstacle à tout ça parce que, franchement, t'sais, on l'a eu, genre, Black Panther Movement. Ça, c'est un symbole. C'est une révolution. On se réapproprie des choses. On est là. Les tresses, on est là. Mais il y a toujours une espèce de truc de... Comment qu'elle s'appelle? J'oublie son nom, mais elle s'appelle Beau. C'était une actrice américaine, blanche, blonde. Là. T'sais, elle avait fait... elle s'était mis des tresses. Là, c'était devenu quelque chose de magnifique. C'était quoi? C'est-tu dans les années 60, 70? C'est un peu en même temps que Cicely Tyson. Elle a fait à la télé les gens, « Oh mon Dieu, tu sais, une femme noire, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau? » Tu sais, comme les gens se sont un peu insurgés. Après, elle l'a fait, c'est devenu beau. C'est
comme
à
une
chaque,
validation. Ouais.
Chaque génération, il y a comme une espèce de figure blanche qui va faire quelque chose, qui va réutiliser un aspect, tu sais, du cheveu noir, qui va le rendre populaire. Et là, ça devient acceptable à chaque génération. Donc, moi, pour répondre à la question, en fait, c'est ça, je peux pas dire que ce soit bon ou pas bon, mais je peux plus juste te donner les clés pour comprendre le pourquoi on pense que c'est pas bon, tu sais. Et dans les premières étapes de recherche, way back when, quand moi, j'ai conduit beaucoup d'entrevues pour écrire ce texte-là, pour faire... cette pièce-là, parce que j'aime beaucoup utiliser le verbatim, le playback theater, que c'est vraiment du théâtre de guérison, tout ça, parce que j'aime beaucoup lier les deux. Puis Bereka Yerjo, qui, elle, c'est elle qui est la directrice artistique du théâtre OTEP, en Guyane française, elle m'avait dit un truc, et ce truc-là, il va rester avec moi pour toujours, parce qu'elle a dit « greffe, c'est un mot extrêmement violent, parce que greffe, ça définit un organe non fonctionnel, et en dessous de ta greffe, t'as des cheveux en bonne santé. » C'est-à-dire des cheveux qu'on étouffe continuellement. Et ça, ça m'a touchée. Puis j'ai fait « waouh, mais ça, c'est ça le spectacle, en fait. Pourquoi on se fait ça à nous-mêmes dès un très jeune âge? » Mmh. Et c'est pour ça que, justement, le personnage de la petite fille noire, de Maddy, qui habite à Laval, qui vit beaucoup de micro-agressions, elle a 13 ans, parce que c'est un petit peu la croisée des chemins. C'est est-ce que tu continues? Est-ce que tu continues à accepter tes cheveux, à porter des petites boules à gogo? Est-ce que tu continues vers ça ou tu changes du tout au tout? T'sais? Puis je pense que c'est à cet âge un peu charnel qu'on est comme, on n'est pas certain. Et c'est là qu'on prend des drôles de décisions ou qu'on se redécouvre plus tard dans la vie. Puis c'était le fun parce que la pièce, on l'a jouée plusieurs fois. Puis autant que tu vas avoir des ados, des jeunes, des adultes dans leur vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine, puis tu sais que tu vas avoir des femmes et des hommes qui vont venir me voir après le show, qui vont dire « waouh, ça m'a touchée, moi j'ai vraiment vécu beaucoup de choses », puis qui se sont vraiment vus dans le message, tu sais. Et ouais, l'aspect masculin de la chose, je trouve ça magnifique. Que les hommes aussi viennent me parler après.
Oui, mais finalement, ça, on se rend compte que ça touche littéralement tout le monde.
Universel.
C'est universel. Moi, ça fait 3-4 ans que je me regarde dans le miroir et que je me dis « Ok, c'est le jour où je vais me couper les cheveux ». J'ai envie de me couper les cheveux depuis longtemps, mais je n'ai jamais le courage. La dernière fois que je me suis coupée les cheveux, c'est justement, j'avais 13 ans. Il se passe des choses. Il y a un avant et un après à nos 13 ans. Mais c'est comme si j'ai peur de perdre ma féminité en coupant mes cheveux. Ouais. Mais je sais que ce lien n'a pas lieu d'être, mais je ne peux pas me l'enlever de la tête. Et je me demandais, toi, comment est-ce que tu vois la corrélation féminité-cheveux?
Oh, child! Malia, moi, c'est la deuxième fois que je coupe mes cheveux au complet. Moi, c'est la deuxième fois. Et c'est extrêmement libérateur. Et moi, j'adore ça parce que... Moi, je conseille à chaque femme de le faire au moins une fois dans leur vie, mais quand elles sont prêtes et que c'est comme émotionnellement, tout ça, c'est comme à le faire. Parce que ça amène beaucoup d'émotions, mais c'est que quand tu n'as pas de cheveux sur ta tête, tu peux pas te cacher derrière.
Oui.
Tu vois? Puis je pense que le cheveu, c'est aussi un petit peu un masque, tu vois? C'est ta personnalité, c'est qui tu es, entre guillemets. Mais quand t'as plus de cheveux, il n'y a que toi, il n'y a que ton enveloppe à toi. Puis tu peux pas te cacher, et je trouve ça... Je pense qu'on on reconnecte plus avec nous-mêmes et qu'on sait mieux qui nous sommes le moment où t'as rien. Ouais. Et que ça repousse, mais que tu te redécouvres. En tout cas, il y a quelque chose par rapport à cette féminité-là. Puis quand tu vois des femmes, là, je suis désolée, comme Lupita Nyong'o, qui est beautiful, like she's gorgeous, elle est belle. Elle est belle. Elle pourrait être aussi belle si elle avait de longs cheveux, tu comprends, une énorme crinière, mais elle est magnifique. Et c'est tout à l'intérieur et à l'extérieur, et elle n'a pas besoin d'artifice autour de ça. Puis moi, c'est des exemples comme ça. Quand je vois ces femmes-là se dire « Hey, je coupe tout. Je coupe tout », puis que tu ne vois que leur enveloppe corporelle, je suis fascinée, je les trouve magnifiques. Puis ils ont une force et continuent à déplacer de l'air, se diriger en ligne droite, elles sont là, puis il n'y a pas d'affaire de, oh, mais c'est d'insécurité. Mm-hmm. Mais encore une fois, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde, mais je trouve ça magnifique. Puis moi, ça m'a vraiment beaucoup libérée de beaucoup de choses. De la permanente, de beaucoup d'acide, de beaucoup de choses que je me suis infligée longtemps en grandissant, parce qu'on se cherche, tu sais, on brûle notre cuir chevelu, on va s'étirer les cheveux à cause de tresses qui peut-être vont causer un petit peu d'alopécie, hein, tu sais. Il y a beaucoup de stress, je pense, vis-à-vis le cheveu de la femme noire qui fait qu'on tombe malade sans s'en rendre compte. Puis des fois, de tout couper puis de recommencer à zéro, de prendre une bonne bouffée d'air, c'est comme de respirer, ça nous aide à voir les choses plus claires après. Donc,
Ce serait quoi, selon toi, la chose la plus toxique, comme l'idée reçue la plus toxique autour des cheveux qu'on intériorise sans même s'en rendre compte?
J'ai envie...
En tant que femme.
En tant que femme. J'ai envie de dire la lourdeur du truc. on dirait que le cheveu afro, le cheveu crépus, on le trouve lourd.
Oui.
C'est peut-être à cause de Herbal Essence et Garnier, là, tu sais, puis c'est leur petite publicité de
pour cheveux. Pour ne pas les nommer.
Non, mais tu sais, ah, bah, aujourd'hui, on parle des vraies choses.
Après.
Non, mais tu sais, qui flottent dans le vent, puis tu sais, on, surtout en tant qu'enfant, tu sais, afro-descendant, quand tu es dans une école au Québec, dépendamment de où tu habites. Comme par exemple, moi, j'ai grandi à Mascouche en tant qu'enfant, là. Fait que c'est comme la population noire. Dans les années
c'était
90, était maigre, tu comprends? Donc, c'est sûr que quand tu es entouré de juste plein de petites filles blanches qui ont des petits cheveux, tu vois, fins, qui flottent dans le vent et que toi, non, tu te poses des questions parce que tout le monde associe la beauté à ça. Donc, toi, tu veux ça. Fait que tu te sens lourd. Mais justement, il y a une pièce, il y a une scène dans la pièce, pardon, que c'est ça, tu sais, ça le dit, le sérison, mais comme, tu sais, moi, je suis une lourdeur sur sa tête, puis tu sais, c'est comme un petit cours d'éducation physique où pauvre Maddy qui s'est aplati les cheveux toute la journée, là, pour essayer d'arriver, là, à un résultat, là, égal à ceux des petites filles blanches. Plot twist, c'est impossible, tu sais, qui s'en va courir dehors pendant son cours de gym, puis commence à pleuvoir. Puis il y a de l'humidité. Fait que ses cheveux commencent à prendre dans l'humidité, puis à devenir poufy, puis, tu sais, c'est... Fait que, oui, tu sais, c'est... Il y a quelque chose d'une lourdeur, comme si on avait un nuage sur la tête. Et un nuage, c'est léger, soit dit en passant.
Mmh.
Mais on nous enseigne que c'est lourd, on nous enseigne que c'est trop, on nous enseigne que c'est une broussaille, on nous enseigne que c'est ça, c'est, c'est trop, c'est comme des mauvaises herbes, genre.
Ouais.
Et pourtant.
Moi, j'ai la manière dont j'ai, paradoxalement, la manière dont je suis tombée en amour avec mes cheveux, c'est en découvrant que je peux tout faire avec. Et donc, je fais des tresses, oui, confession, mais je m'amuse à faire des tresses. Je les fais moi-même. C'est vraiment mon moment self-care. Je choisis la couleur. J'ai fait tout, toutes les vert, je l'ai déjà fait. D'ailleurs, c'était très beau.
Ah, voilà.
J'ai fait littéralement toutes les couleurs. Vraiment, la seule chose que je n'ai pas faite, c'est les raser. Mais moi, ça m'a aidée à... En découvrant ça, ça m'a aidée à vraiment aimer mes cheveux pour ce qu'ils sont, justement pour leur lourdeur, leur lourdeur aussi, mais pour... Parce que le fait qu'ils soient crépus, qu'ils soient vraiment que... Quand on peigne, on sent vraiment le peigne passer. Ça fait que quand tu fais des tresses, par exemple, les tresses restent mieux, elles agrippent mieux. Donc, il y a comme une... Ce que les autres verraient comme étant un défaut, moi, je vois comme une qualité. Quand je me tresse, je me dis, ah, ça va tenir sur mes cheveux.
En tout cas,
moi, je me demandais, ça a été quoi pour toi le déclic qui t'a fait aimer vraiment tes cheveux? À moi, est-ce que ça a été inné?
Pour moi, ouais. Eh, bonne question. En plus, pour répondre à ce que tu disais, tu sais, on le dit dans la pièce, hein, pourquoi tu m'aimes pas? Tu vois pas que j'ai une force aérodynamique?
Exactement,
je peux tout faire. Puis c'est ça, mais tu sais, c'est qu'on peut tout faire. Tu sais, les tresses, la couleur, c'est magnifique, il faut bien le faire. Parce que c'est ça, c'est comme ton cheveu, tu lui parles, est-ce que ça va bien? Ça va bien, merci, bonsoir. T'sais, c'est comme, il faut quand même en prendre soin, c'est une relation. Mais pour moi, je pense que... Tu sais, il y a eu une période où je voyais vraiment beaucoup de hair show. Puis j'étais comme... Wow, les hair shows, ça... Pour ceux qui ne connaissent pas les hair shows, là, aux États-Unis... Mais les États-Unis sont un petit peu... Il faut trop. Ils sont un peu too much, là, tu sais. Mais, tu sais, des hair shows, quand qu'on... Puis il y avait beaucoup de films qui sortaient dans les débuts 2000, hein, puis c'était comme, OK, le hair show, le film. Tu sais, c'est comme grosse compétition de cheveux. Mm. Qu'est-ce qu'on fait? La tour Eiffel avec des cheveux, why not? Tu sais, il y avait ces inventions qui n'avaient aucun bon sens, puis je trouvais ça tellement drôle. Puis j'étais comme, wow! On peut tout faire avec des cheveux afro parce que, à la différence de tes amis blanches qui ne peuvent pas, ça tombe, tu sais. Mais on sait tous que, bon, avec le bon tissage, oui, ça pourrait marcher, mais on sait que c'est avec nos cheveux que ça marche pour de vrai, puisqu'on va se dire les vraies affaires. Mais on dirait que c'est en réalisant que, tu sais, les femmes de ma famille ou les gens autour de moi, tu sais, c'est toutes des personnes, tu sais, des femmes noires, puis je les regardais, puis... J'étais comme, OK, mais pourquoi on les cache? Parce que, tu sais, tu pourrais passer une vie entière sans savoir à quoi ressemblent les cheveux ou la tête de ta tante ou de gens autour de toi. Puis je commençais à trouver ça un peu étrange. Mais quand je les voyais réellement, sincèrement, avec comme des piles de cheveux si longs, si volumineux, si beaux, puis je les trouvais tellement belles.
Mm.
Puis là, je me disais, waouh, mais on est belles. Comment qu'on... pourquoi on ne le voit pas plus souvent? Puis je pense que ça a été une espèce de moment de « Ah, waouh, OK, mais on est vraiment des belles femmes, là. » Mais on le cache. Pourquoi on le cache? Puis tu sais, ouais, ça a été une espèce d'avalanche de recherche. Ouais. Puis de trouver justement, OK, mais où sont mes figures féminines avec leurs cheveux naturels? Oh my God, Erykah Badu is so beautiful! Fait que là, tu commences à chercher tes femmes. T'es comme, wow, OK, mais elle a fait ça, tu sais. I mean, Miss Davis, Angela Davis is so fabulous. Elle est là, elle est éclairée, elle est intelligente, c'est une femme de lettres. Moi, je suis comme, ben là, elle a un afro, elle est magnifique, un afro volumineux, oui. Puis on la respecte, elle est magnifique. Donc, pourquoi moi, je ne peux pas faire ça? T'sais, c'est comme si on donnait un passe-droit à certains individus, mais pas aux autres. Et puis moi, j'ai fait non. Non, j'accepte. Non, je n'accepte pas. T'sais?
Écoute, c'est un très beau refus et on va faire une pause sur ce très beau refus.
Pour terminer et commencer la semaine, écoutez Cyril Ekwala et son équipe. Né au Québec tous les dimanches de 15h à 17h sur CIBL.
Rebonjour Palina.
Allô!
Comment vas-tu?
Ah, je vais bien. Je suis inspirée. Je suis entourée de femmes inspirantes. Oui. Je suis vraiment très, très contente.
Bon, écoute, moi, je suis curieuse pour continuer sur cette conversation qu'on a avec Marilyn. Oui. C'est quoi, toi, ton rapport avec tes cheveux?
Ouf! J'ai grandi dans une famille majoritairement blanche, outre moi et ma mère. J'ai été dans des familles d'accueil blanches. Je vis au Québec. Je suis comédienne. J'ai travaillé en restauration tout le temps. Tu sais, plein de lieux où, à un moment donné, j'ai appris à dire « il faut que je sois le plus caucasienne possible ». Dans un de mes textes, je dis « le plus caucasienne sera ». Donc, ouais, ça a toujours été ça, mon rapport. Je pense que... Un truc précis, je vais vous dire. J'ai pas vu mes cheveux afro avant mes 19 ans. J'ai eu un défrisant de mes 7 ans jusqu'à mes 19 ans. Parce que je voulais les cheveux plats, qui volent dans le vent et tout ça et tout ça. Mais tu sais, ça fait comme un abat-jour, finalement.
Les cheveux garniers, comme...
mais tu sais, ça te brûle la tête. Tu fais ça tous les mois. Tu pleures. Après, j'ai commencé au secondaire à mettre des tissages, qu'on appelait des greffes. Ça m'a marqué quand même, cette phrase-là de ce que Marilyn a expliqué, parce que les mots sont forts, ils n'existent pas pour rien. Pendant tout mon secondaire, des longs cheveux et tout ça. Puis, à 19 ans, je suis partie en Biélorussie pendant un an. Puis là-bas, il n'y a pas de noir. Fait que là, j'avais le choix de genre, est-ce que je vais vraiment m'arrêter de suivre ce que je veux faire, de l'art, de jouer pour mes cheveux? Comme, je pourrais pas faire des tresses qui vont durer un an, là. Qu'est-ce que je fais? Tu sais, je vais pas avoir des tresses après les enlever. Fait que j'ai fait le big chop, qu'on appelle, hein, coupé très, très court pour avoir mes cheveux naturels. Puis, j'ai emmené plein de produits, de crèmes de plus possible, plein d'affaires. J'ai demandé à ma mère qu'elle m'en envoie plus après un certain temps. Puis j'ai appris avec des tutoriels à regarder. Puis je pense que j'ai appris à m'aimer, en fait. Mais c'est un processus, tu sais, 19 ans, ça fait 10 ans maintenant seulement. Fait que c'est pas complet, je sais pas. Des fois, tu te sens mal. Des fois, t'as le « not black enough ». Des fois, tu te dis que, genre, d'être tellement ancré dans le, genre, afro naturel, 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 que tu manques toute la magie de tes cheveux, de, justement, ce tissage-là, ces tresses, tout ce que t'as vécu.
Ça devient performatif, un peu.
Exact. Mm. Fait que je pense que c'est une évolution.
Ouais.
Puis, il y a pas de fin. Puis, des fois, il y a des insécurités parce qu'on est dans le monde dans lequel on est. Hein, c'est historique, c'est plus que... Il y a eu l'esclavage, on n'avait pas le droit de montrer nos cheveux, on nous obligeait d'éraser. Tu sais, ça, on doit en parler. Puis je crois beaucoup à les traumas intergénérationnels et tout. Puis encore aujourd'hui, en Amérique, il y a des gens qui se font renvoyer des écoles parce qu'ils ont les cheveux naturels, tu sais. Mm-hmm. On est obligé de mettre des lois pour dire, ah non, ce n'est pas non professionnel. T'imagines, on est obligé de mettre des lois pour...
Même au travail.
Pour imposer que ce n'est pas non professionnel.
Oui, oui, ouais.
Donc, ça, c'est mon rapport. <Je veux. rire>
Et est-ce que... moi, ce que je trouve beau dans ce que tu dis, c'est que aimer ses cheveux, c'est s'aimer soi-même, finalement.
Ouais.
Je sais pas si cette belle phrase que je viens de dire résonne en vous d'une certaine façon.
Oui. Je pense que Marlène l'a dit à un moment donné, c'est qu'on se cache derrière les cheveux. Mmh. Puis je trouve que Je pense que j'en avais moins conscience quand j'étais ado parce que justement, au trois mois, je changeais de cheveux puis j'étais vraiment fière puis je comprenais pas vraiment cette oppression. Puis maintenant, je suis beaucoup plus sensible aux commentaires, aux regards. Pendant la pause, on parlait de notre photo de casting. Elle aurait ressemblé à quoi? À la photo professionnelle mm-hmm. qu'on remet aux gens de distribution. Mm-hmm. Mais je veux dire, il faut vraiment que je prenne une photo à chaque fois que je change de cheveux. C'est comme un devoir supplémentaire, une charge sur nous. Puis en tant qu'adulte, maintenant, j'en suis très consciente. Puis dans les journées où ça va moins bien, où je n'ai pas envie d'être activiste, bien, c'est vrai que ça m'alourdit. C'est pas le cheveu qui m'alourdit, mais c'est les débats qui entourent mon cheveu. Genre, mes cheveux ne peuvent pas juste exister librement.
Ouais, ils sont politiques, hein?
Politique, polémique.
Ouais, politique, polémique. Ouais,
polyphonie.
Ouais. Ouais. Fait que quand tu mets une afro, ce qui m'interpelle dans ce que tu dis, c'est il y a des moments où tu te sens pas d'être activiste.
Ouais.
Fait que tu peux pas juste exister avec tes cheveux naturels dans l'espace public.
Ah non.
Et ouais, c'est fou, hein. Ouais. Comme, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens en toi ou est-ce que c'est le regard des autres
c'est
qui te renvoie
que
ça?
Je vois, que je ouais. ressens. Mmh. Je sais qu'il y a certains lieux, si je vais avec un afro, c'est un statement, tu sais. Sur quoi on se concentre, qui tu rencontres. Est-ce qu'ils vont écouter ce que je vais dire ou ils vont juste voir que j'ai un afro autour de la table?
Ouais.
C'est de moins en moins pire. Mais je dirais, surtout dans les arts, je pense que maintenant, si je dois douter de sortir mon afro à une entrevue, ben, je ne vais pas aller faire l'entrevue. Il y a quelques jours, je me préparais pour cette conversation-là, puis je réalisais justement que j'ai travaillé beaucoup en restauration, puis à chaque fois, je m'attachais les cheveux. Mm-hmm. Puis c'est les cheveux que j'avais au travail, puis pas avant le 3 mois que tu es sûre d'avoir la job, je ne vais pas sortir l'afro, tu sais. Mais je réalisais que dernièrement, cette semaine, j'ai fait une entrevue, puis j'avais le gros afro sorti. Puis j'étais comme, si ça... Ça empêche que j'ai la job, mais je ne veux pas travailler là. Je ne veux pas travailler là. Donc, oui, ça change. Puis c'est différent dans chaque lieu. Tu sais, je pense à des camarades qui sont qui travaillent en juridique, qui travaillent en médecine. Comme, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'ils ont cette même liberté de leurs cheveux? Je ne suis pas certaine. Ceux qui travaillent en politique, tu sais, on voit tout ce que Catherine Dorion qui a une chemise, imagine le cheveu afro, comment c'est une insulte.
Oh, c'est sûr. Et toi, Marilyn, est-ce que t'as déjà ressenti qu'en ayant les cheveux soit rasés, soit naturels, c'était comme pour toi, t'es juste jolie, puis t'es sortie, puis mais pour les autres, c'était vraiment gros statement politique.
Ah, c'est politique malgré soi.
Oui.
C'est politique malgré soi et comme Paulina a dit, en ce moment, c'est comme si ça s'améliore dans le milieu des arts. Mais moi, j'ai remarqué, on dirait que pour moi, l'afro maintenant dans le milieu des arts, si ce n'est pas politique, c'est genre exotique.
Oui, je m'en allais vers là.
Il y a comme une énergie qui vient avec ça. C'est comme, oh wow, Marilyn, allô.
Est-ce bien toi?
C'est beau. Hein?
T'es donc bien courageuse.
Mais un peu trop, tu sais. Puis je suis comme, mais là, on serait très bien toi et moi que je me suis. T'sais, ça se peut là que je me suis pas si peignée que ça là. Puis que c'est pas très c'est correct là, tu sais, je veux dire, je suis juste sortie, c'est comme une coupe de lendemain de veille là, c'est beau, mais c'est pas si beau. Mais là on dirait qu'on
c'est une œuvre d'art.
On rentre dans du politiquement correct de j'aime ça, c'est il y a une énergie ou tu sais, comme mais là on se calme là, on va se calmer. Donc oui, je le ressens, je le ressens beaucoup. Et tu vois, moi, dans le milieu des arts aussi, ce qui me stresse, peut-être ça va nous partir sur une autre conversation, parce que autant dans ma pièce que dans la vie, j'ai besoin qu'on voit de plus en plus le cheveu afro, juste l'afro, sans artifice dans les écrans, à la télé, tout ça, parce qu'en ce moment, oui, on s'ouvre à la diversité et c'est beau, mais on s'ouvre à une diversité qui a de très, 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 très beaux cheveux.
Oh.
Et ça, je trouve ça extrêmement effrayant, angoissant pour la génération, par exemple, si on prend des enfants acteurs ou qui se voient à la télé, mais qui se voient, puis après ça, on ne va pas se lancer dans du colorisme, là, mais qui se voient dans une certaine teinte.
Une chose à la fois.
Oui, c'est ça. Pas tous les on ne va pas tout régler en ce jour. T'sais. Non, mais tu sais, qui se voient dans une certaine teinte, puis avec une certaine texture de cheveux.
Mm.
Et ça, je me dis, oui, ce sont des... On a de la représentativité, mais jusqu'à quel point on est inclusif ou qu'on ouvre la porte à quelque chose de plus entre guillemets, normal ou commun. Genre, je sais pas, tu sais. Ouais. Il y a quelque chose de... C'est quoi la beauté? C'est quoi la beauté noire? C'est la beauté noire qu'on accepte, puis après ça, il y a les autres. Puis j'ai de la misère avec ça, dans le milieu des arts. On est dans une... On est sur de la glace en ce moment, je trouve.
C'est comme du bon et du mauvais entremêlés.
Du bon et du mauvais.
Le bon noir.
Tout mouvement qui, tu sais, comme pourrait prendre un 180, là, tu comprends? Ouais. Puis je suis comme, oh, OK, mais peut-être pas, finalement.
C'est ça. Non, merci.
Ouais.
Est-ce que t'as constaté ça aussi, Palina?
Ah, mais c'est sûr. Puis je sais même pas si je suis la bonne noire, hein, dans tout ça.
Le but, c'est qu'il y en ait pas une.
Comme pour moi, puis je le recherche pas non plus, je pense. Mais en même temps, c'est compliqué parce qu'en tant qu'artiste, quand on le recherche pas, ça nuit notre salaire, tu sais. Fait qu'on se demande juste à quelle limite on se doit d'accepter. Parce que des fois, t'acceptes pour quel contrat, OK, parfait, là, lycée, OK, là, perruque. Puis c'est pas un jugement, mais c'est juste que... Quand tu réalises que pour tous tes contrats qui sont en grosse cote d'écoute et tout ça, qu'on te met la perruque tout le temps, qu'on va te mettre des belles tresses tout le temps, mais que le cheveu naturel... Quand je me réveille le matin, j'ai un bonnet. Est-ce qu'on le voit maintenant à la télé? Est-ce qu'on voit le moment qu'on va faire le tissage, le moment qu'on va faire les tresses, le moment du wash day? T'sais, moi, je trouve que maintenant, on en voit de plus en plus dans les émissions. Mais on voit juste le moment où c'est genre pretty, genre. Puis c'est ce que j'ai aimé dans les météoriques, pour revenir à notre première entrevue qu'on avait avec Nadia. On voit les petites filles qui sont là, leurs cheveux de façon vraiment naturelle, qu'on se lève le matin. C'est pas une peignure plus extraordinaire que la normalité du tous les jours, du commun de tous les jours. Et ça m'a fait vraiment plaisir de le voir. On voit quand ils se font tirer les cheveux. On a tout ce moment-là, on l'a ressenti dans notre corps. Et on voit le moment où elle essaie d'aplatir et tout, et ça remouille. C'est ça, c'est le quotidien de tous les jours. Je veux pas juste voir le moment où tu sors du salon que ça t'a coûté 200$ minimum. Je veux pas juste voir ça.
Puis pour rajouter à ça, c'est comme si dans l'univers télévisuel au Québec, tu peux avoir les acteurs, les actrices caucasiennes qui apparaissent, puis tu sais, cheveux tout défaits, un petit peu tout croche, c'est beau. Mais nous, quand on apparaît à l'écran, on est en mode défilé de mode tout le temps.
Oui.
C'est comme on peut pas juste, on se réveille, puis je sais pas trop ce que je fais avec ça ce matin, tu sais, c'est comme ça n'existe pas.
Maquillée, puis
par rapport à ça, mettons, dans le processus des météorites, moi, c'était quelque chose de comme très, très, très crucial. Puis on avait genre deux coiffeurs, Anne-Sette. Donc, on avait un coiffeur qui aidait pour tous les cheveux, évidemment, de tous les personnages. Mais j'avais aussi une coiffeuse spécialisée, genre black, qui faisait les cheveux des filles. Puis, tu sais, je veux dire, moi, c'était important que comme les filles, elles aient leur afro, genre most of the time, un afro un peu pêle-mêle, pas un afro genre parfaitement défini, genre juste un afro que tu t'es levé le matin, tes cheveux sont un peu croches. Genre, qu'il y a des moments où il y a des petits pompons avec plein d'élastiques de couleurs, comme que nos mamans nous faisaient peut-être quand on était plus jeunes, qui étaient aussi des moments où les cheveux sont défrisés, qui était la progression des cheveux défrisés aussi, qui à un moment donné deviennent de plus en plus poufy, qui était... Fait qu'il y avait comme énormément de hairstyles très différents dans la série. Puis c'était quelque chose, mettons, que mon assistant réalisateur me disait, tu sais, c'était compliqué à tourner comme ça, parce qu'en fait, mettons, le matin, on commençait avec une scène où est-ce que les filles ont un afro. Là, la deuxième scène qu'on tourne, genre une heure plus tard, les filles ont des tresses. Là, une scène après, les filles doivent avoir les cheveux lissés. Fait que là, mes coiffeurs, ils capotaient, là, ils lissaient les cheveux. Après ça, la scène d'après, c'est genre afro. Fait qu'il y avait peut-être 500 gens de coiffeurs par jour, tu sais. Puis c'était comme un gros, gros, gros travail de coordination, mais c'était excitant aussi, tu sais. Les filles se faisaient changer les cheveux constamment. Et il y avait comme aussi une beauté de genre, oh mon Dieu, les costumes, tout change. Fait qu'il y avait quelque chose de vraiment excitant à justement comme profiter de tout ce que nos cheveux nous permettent de faire. Mais il fallait comme avoir l'écosystème de faire ça. Puis j'avais des productrices noires aussi qui comprenaient c'était quoi. Oui. Mais c'est très... Puis je trouve ça vraiment bon ce que vous avez dit par rapport à les fois qu'il y a comme des personnes de couleur à l'écran en ce moment, ben elles ont des cheveux très comme bouclés, super, les baby hairs super parfaitement faits et tout. Puis comme, ben c'est vrai que ça peut mettre aussi une pression de genre, si tu gères pas ton cheveu afro de cette façon-là, c'est peut-être moins beau. Là, j'ai mis des guillemets, là. Oui. Mais donc, ça, c'est une pression qui est quand même là aussi.
Tu prends pas soin de toi.
C'est ça. Ça envoie une image tout de suite. Ouais. Oh, ouais. Mm-hmm. Mais pour revenir à ce que tu disais, Marilyn, sur le côté « waouh » dès que tu... C'est ça? Dès que tu as une afro, est-ce que tu y verrais de la fétichisation?
Absolument.
Bon.
Ben, tu sais, en même temps, tu sais, mon show, aphrodisiaque, C'est aphrodisiaque. Mais oui, il y a de la...
Tout est lié.
Oui, tout est lié. Il y a de la fétichisation, parce qu'on dirait que aussi on a tellement été conditionné à faire autre chose, tu sais, à se cacher, que maintenant qu'on ne se cache plus, c'est « waouh! »
Tu étais donc comme ça?
Mais tu sais, la fétichisation, elle est tout le temps là. Tu sais, comme peu importe, tu peux pas... J'ai l'impression que tu peux pas gagner, tu sais. C'est que tes cheveux sont naturels, waouh! Tu t'accommodes à ce que les gens veulent, ben là, waouh! Après ça, tu mets un foulard pour les cacher, waouh! Mais qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Tu sais, il n'y a pas de manière de gagner. Mais je l'ai, encore une fois, dans le show, tu peux te camoufler, tu peux les cacher, tu peux faire tout ce que tu veux, mais ce qui est là sous ta tête, ça ne ment pas. Tu sais, les gens en veulent tout le temps plus. Parce que je pense que aussi les femmes noires, brunes, métisses, on nous pousse à une limite de... C'est quoi ta limite? Jusqu'où on peut aller avec sa force, avec sa malléabilité, avec ce qu'elle peut, sa manière de s'accommoder puis de s'adapter à tout? Jusqu'où on peut la pousser?
C'est vrai, on est souvent là-dedans.
On est souvent là-dedans. On va la pousser au maximum, voire. Puis on le prend sur nous, mais ça, c'est du trauma générationnel. C'est dans notre sang. On se dit, je peux. T'sais, mais des fois, on ne veut pas.
C'est ça.
Des fois, comme aujourd'hui, on arrive au studio, pas maquillée, puis on l'accepte parce qu'on s'est dimanche. Il y avait une tempête, là, il n'y a plus de tempête, là, il pleuvait, puis on a dit, hey, tu sais quoi, c'est ça qui va être ça, mais je suis quand même belle là, aux gens qui écoutent. Mais, tu sais, on décide que non. Puis, tu sais, pour relancer la conversation, mettons, par rapport aux cheveux, à quoi ils ressemblent. Tu sais, moi, j'ai rasé ma tête deux fois. Là, en ce moment, je suis plus dans la coupe, les côtés de mes cheveux rasés, mais tu sais, dis-toi aussi, il y a la perception des autres par rapport à ça. Moi, j'ai décidé, hey, je me sens bien avec cheveux rasés sur le côté. Mais moi, depuis que j'ai fait ça pendant la pandémie, le nombre d'offres de casting de non-binaire, queer, lesbienne, je les reçois toutes. Et ça ne me met pas... Ça ne me dérange pas, mais il y a comme une espèce de notion de moi, je ne m'identifie pas à ça nécessairement, mais d'avoir aussi des gens autour de moi qui s'identifient à et n'ont pas accès à ces auditions-là. Mais là, on rentre dans de la fétichisation de on va cocher plusieurs cases de noir, femme, ethnicité. Puis ça, c'est fou.
Fait que t'es plusieurs quotas en même temps.
Absolument. Ah, ouais. Puis là, c'est comme le festival du quota. En ce moment, c'est le festival. Oui, mais c'est comme si que dans l'imaginaire franco-québécois, c'est impossible.
Tu vaux cher, hein?
Je vaux très... Laissez-moi vous dire, le tag a un très gros chiffre. Mais c'est comme si... Mais ça, c'est... Après, on parle culture, mais on parle Québec, mais on est toujours un peu 15 ans en retard. On est en retard sur Toronto. Toronto est en retard sur les États-Unis. C'est spécial, mais ça, c'est la culture ici. Fait que, je vous partage des choses.
Non, mais c'est très édifiant. Moi, je pourrais parler, je pense que nous toutes, on pourrait parler de ce sujet-là. Ah, des heures et des heures, mais hélas, dernière petite question. Est-ce qu'on peut s'émanciper finalement de ce regard des autres ou est-ce qu'on doit composer avec, concernant nos cheveux?
Moi, je pense que oui, il faut juste...
Oui, pour s'émanciper, oui, pour...
S'émanciper du regard des autres, on fait ce que l'on veut, ouais. Tout simplement.
Mais c'est comme si, tu sais, pour revenir au fait que les cheveux soient politiques, qu'on le veuille ou non, c'est comme si, même si nous, on s'émancipe, on sera toujours... agressé, c'est un grand mot, mais comme on sera toujours la cible du regard des autres, et ça va être comme un poids, même si toi-même, t'es libre dans tes choix, donc qu'est-ce que sans interrogation.
Ben, on ouvre la conversation. C'est ça. On ouvre la conversation, on fait le travail avec nous-mêmes pour justement être bien avec notre cheveu, pour comprendre notre corps, comprendre notre propre bagage, notre propre trauma aussi qu'on carry, qu'on porte avec nous. Tu sais, en tout cas, pour moi, aphrodisiaque, ça a aussi été si on ouvre la porte pour parler du cheveu afro comme ça, puis de la texture, puis aussi des différents niveaux, parce que la pièce parle de comment justement cette texture-là a une incidence, une influence sur comment les femmes noires, brunes et métissées sont traitées et perçues dans la société. Mm-hmm. Donc là, on a une échelle, c'est pas pareil pour tout le monde. Puis ça, il faut le réaliser, il faut le comprendre. On vit toutes la même chose, mais pas à des niveaux différents. Mais d'ouvrir cette conversation-là, après, justement, par rapport au regard, ça ouvre la conversation sur les juifs hassidiques qui portent leur perruque. Oh, oui. Ça ouvre la conversation... Est-ce que tu comprends? Oui, c'est comme ça ouvre la conversation sur les femmes voilées. Ça ouvre la conversation sur pourquoi on fait ça, mm. tu sais. Fait que c'est vraiment, c'est un large sujet, puis ça tombe dans un entonnoir à un certain point. Mm. Mais je pense qu'il faut ouvrir la conversation, il faut en parler, il faut continuer de justement créer des espaces, créer des œuvres qui font qu'on se pose des questions. Mm-hmm. Puis avec les 3 ans qu'on a fait, genre le show, après ça au ZooFest, après ça en tournée, il y a tellement de gens différents qui ont vu le spectacle et qui ont été touchés de manière à différents niveaux, que ce soit des personnes blanches, caucasiennes, asiatiques, latinas, anglophones, francophones, noirs, hommes, femmes. Tout le monde a été touché d'une manière ou d'une autre. Mm-hmm. Donc, et autant des femmes qui ont une 50aine d'années qui viennent me voir, oh mon Dieu, moi aussi je ressens beaucoup de lourdeur depuis longtemps. J'ai envie de me sortir de ça, de faire le processus. Ou des jeunes, des ados, des enfants, tu sais, qui vont aller chercher autre chose. Mm. Mais je pense qu'on ne peut pas se sortir du regard de l'autre, mais nous, on peut s'en sortir pour nous-mêmes, pour notre propre tête.
Ouf! Très beau jeu de mots! Comme mot de la fin!
Lui, je n'avais même pas compris. Tu vois comment je suis tellement connectée avec moi-même. J'ai fait un jeu de mots sans m'en rendre compte. Bon. Oh, qu'elle est drôle! Elle est comédienne aussi, elle est comédienne. Oh mon Dieu!
Merci beaucoup, Marilyn Chéry, oui. Comédienne, dramaturge, pour cette belle discussion autour du cheveu noir. Merci beaucoup, Palina, d'y avoir participé.
Un plaisir.
Merci beaucoup, Nadja, aussi, d'y avoir participé. Merci à toutes autour de la table.
Néo-Québec, c'est rafraîchissant.